Voilà. Bonjour à tous, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous saluer. Je suis arrivé par le train ce matin. Chaque fois, bien sûr, c'est avec joie que je me retrouve dans ces conférences qui sont toujours fixées pour le jour de l'Ascension. Mais c'est vrai, je ne sais pas depuis combien de temps. 20 ans. D'accord. Donc ça commence à faire pas mal, hein, 20 ans, hein, c'est vrai. Mais 20 ans où le seul livre que nous avons médité, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et nous allons continuer à la méditer. C'est vrai que les sujets ont été très variés pendant ces 20 ans. Et donc, je crois que c'est important de voir en cette journée ce que notre frère a développé, Bernard, sur la soumission. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques minutes. Quelle est notre humilité? Quelle est notre manière de penser, mais surtout au niveau de nos sentiments? Ça aussi, c'est un point important, parce qu'aujourd'hui, on peut tomber, n'est-ce pas, dans un grand danger, de tomber dans une sensibilité qui n'est pas du tout fondée aussi sur la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est bon, donc, ce matin, peut-être... C'est très vaste comme sujet aussi, mais de l'examiner au travers des Écritures. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre 3 versets de base et que le Seigneur nous conduise après pour la méditation. Le premier, évidemment, c'est ce passage de Philippiens chapitre 2. Voilà l'apôtre Paul qui s'adresse à cette église de Philippe. Nous étions tout à l'heure, tu l'as dit, à Bérée, du côté de la Macédoine. Là, nous descendons un peu, nous sommes en Grèce, dans cette grande ville aussi de Philippe. Et vous le savez que ça a été peut-être une des premières villes où l'annonce de l'Évangile a été faite, donc, par l'apôtre Paul. Et voilà ce qu'il leur dit. Il leur dit, je reprends un peu avant, hein, je commence au verset 3. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Verset 4, Philippiens 2, hein, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, ben il n'a pas du tout regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris donc la forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un homme simple, n'est-ce pas un simple homme, mais il s'est humilié lui-même, alors, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je me suis permis de lire l'ensemble de ce texte pour que l'on comprenne déjà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que vous le voyez? Je crois que vous êtes habitué à ce texte, que c'est des sentiments, bien sûr, d'humilité, d'abaissement, de soumission. Est-ce que nous y sommes dans ce cadre-là? Alors, évidemment, si nous redécouvrons ici au travers de ce texte que le Seigneur a été quelqu'un de humble, alors est-ce que nous avons dans la parole de Dieu une déclaration de sa part sur l'humilité? Oui. Et là aussi, un passage bien connu, je vous demanderai d'aller dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, merci beaucoup. Matthieu chapitre 11, et voilà la déclaration du Seigneur. C'est un passage sans doute que certains vous connaissez par cœur, il est, je crois, facile à retenir. Matthieu 11, où il est dit au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et c'est là où nous redécouvrons que deux natures de notre Seigneur, parmi tant d'autres bien sûr, c'est l'humilité et la douceur. Et si nous voulons avoir donc des sentiments qui correspondent donc à la volonté de Dieu, il faut qu'il y ait en nous cette humilité qui n'est pas une fabrication humaine, mais qui vient de la part de Dieu, et cette douceur. Je vous rappelle que quand on lit Galates chapitre 5, où il est parlé des fruits de la chair et de les fruits de l'esprit, la Bible nous apprend que la douceur, Galates 5, 22, c'est un fruit de l'esprit, douceur. Et il faut donc que j'apprenne à me laisser contrôler par le Seigneur, me laisser contrôler par le Saint-Esprit, marcher par l'Esprit. Soyez conduits par l'Esprit. Et c'est là où il y aura cette douceur en chacun de nous. Et il me semble qu'il nous faudrait un troisième point de repère, et puis que le Seigneur nous dirige à développer tout cela. Un troisième passage où nous sommes invités, vraiment invités, à pratiquer cette douceur, à pratiquer cette humilité. Et là, nous revenons sur l'épître aux Éphésiens, et je vous invite à prendre Éphésiens chapitre 4, merci beaucoup, et que le Seigneur nous dirige pour faire un lien entre ces trois passages de ce matin. Vous y êtes, Éphésiens chapitre 4, là nous sommes à Éphèse, donc nous sommes passés de la Grèce à l'Asie mineure, et voilà l'apôtre Paul en train d'exhorter cette église d'Éphèse. Cette église d'Éphèse qui recevra sa dernière exhortation dans l'Apocalypse, parmi les sept lettres aux sept églises de l'Apocalypse. Ben regardez cette exhortation de Paul. Je suis au verset 1, hein. Vous y êtes, Éphésiens 4. Je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et retenez bien, je vous adresse une exhortation pour une vocation, pour que vous marchiez d'une manière digne. Alors, pour marcher d'une manière digne, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Tout à l'heure, nous avons entendu ce message de la part de notre frère Bernard sur la soumission. Ici, il est parlé de se supporter les uns les autres. Et puis, attention, il faut que ça soit aussi volontaire de notre part. Vous efforçant. Il faudra donc une volonté de notre part, une décision de notre part. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Car il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a aussi un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, un seul Dieu qui est Père de tous et qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Mais surtout, nous allons nous arrêter sur ce passage où il me semble que Dieu nous dit ici, dans d'autres passages, marcher par l'Esprit. On vient de le voir il y a 2 minutes. Dans d'autres passages, il est dit marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ. Ici, il nous est parlé aussi dans l'Épître aux Éphésiens, vous, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, alors marchez comme des enfants de lumière. Mais ici, la marche, c'est une marche avec cette douceur, cette humilité, cette patience, et c'est à ce moment-là alors où vous vous supporterez, il est dit, les uns les autres. Oui, bien sûr, c'est un très grand domaine aussi cela, mais je vais essayer, Jérémy, de me limiter moi aussi, de ne pas trop déborder. Il y a tellement de choses à dire, comme tu le disais Bernard, tellement de choses à voir. Est-ce que vous vous rappelez du premier texte qu'on a lu? Matthieu 11, 28-29. Il était parlé de ces deux caractéristiques, entre autres. Il a toutes les caractéristiques saines, bien sûr, notre Seigneur. Mais ce matin, nous voyons que le Seigneur déclare qu'il est doux et humble de cœur. Et puis, il parle, on l'a entendu maintes et maintes fois, de ce joug. Prenez-le et puis suivez-moi. Je voudrais d'abord que l'on comprenne, puisqu'on va beaucoup parler de sentiments qui étaient en Jésus-Christ, d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en lui, puisqu'on va parler de humilité, que l'on voit peut-être un peu la racine de ces mots. Quand il est parlé d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et ce sentiment donc d'humilité, de douceur. J'ai noté ici que quand on utilise ce mot « sentiment », évidemment, ça vient du verbe « sentir », hein, et j'ai noté que « sentir », bien sûr, c'est percevoir quelque chose. C'est le comprendre. C'est une affection donc que Dieu va nous transmettre pour être digne du Seigneur dans telle ou telle situation, dans tel ou tel événement, devant telle ou telle personne. Quel genre de sentiment je vais avoir à ce moment-là? Et alors c'est là où, attention, moi-même, je dois surveiller ce point, et chacun de nous aussi, de ne pas tomber de devenir un sentimental, de devenir quelqu'un qui peut-être va rentrer dans une situation peut-être un peu trop excessive. Je parlais dernièrement avec un homme de Dieu qui étudie pas mal de situations. Il m'a dit, tu sais Samuel, en ce moment, ce que je retrouve souvent dans les églises, c'est le ressenti. Il faut sentir quelque chose ou on ressent quelque chose et immédiatement, il faut l'exprimer. Et il me disait, attention parce que il me semble que ce n'est pas du tout cela, l'attitude que Dieu veut pour nous, n'est-ce pas? Je crois qu'on doit rester, et ça va être donc une recherche de notre part, d'avoir uniquement en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand on a lu ce Matthieu 11, 29, et bizarre, le Seigneur parle de joug. Alors, tout d'un coup, en méditant ces derniers jours sur, évidemment, cette prédication de ce matin, je me suis vu, mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, à Nazareth, dans son atelier avec son père. Il est charpentier, il construisait des meubles, il construisait des tables, peut-être des pupitres, je ne sais pas, mais il fabriquait aussi des jougs. Et c'est là où ça m'a éclairé. Il fabriquait des jougs. Et alors, voilà qu'il parle de jougs doux et d'autres peut-être un peu plus durs. Il ne faut pas oublier que j'ai appris que, évidemment, quand dans des ateliers on fabriquait, aujourd'hui on est loin de cela bien sûr, mais des fabrications de jougs, il fallait après les essayer. Et alors quand on les essayait, ils devenaient plus doux sur les bêtes, n'est-ce pas, qui étaient utilisées, les animaux qui étaient utilisés. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on allait acheter chez ce charpentier menuisier un joug, lui, il savait, le fabricant, il savait très bien le joug qui était doux, plus léger que d'autres. Vous savez que pour le joug, c'est souvent deux. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ va prendre sur lui le joug qui est le plus dur, et il va nous laisser à côté de lui avec le joug le plus doux. C'était en opposition avec les pharisiens. La Bible dit dans Matthieu chapitre 23 et verset 4, je vous lis ce verset, ne le cherchez pas, mais regardez un peu ce que Jésus-Christ très sévère est obligé de dire à ces pharisiens. C'est un des passages où il dit « Hypocrites que vous êtes, vous les pharisiens ». Et voilà ce qu'il leur déclare ici, dans Matthieu 23 et au verset 4. « Il lie des fardeaux pesants, il les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas en remuer, même pas du doigt. » Et c'était en opposition au fardeau de la tradition, de la religion, le fardeau des hommes, ce que les hommes imposent. Et le voilà le fardeau léger, doux, le Seigneur qui va nous conduire avec ce joug. Est-ce que chacun de nous est déjà sous le joug du Seigneur ? Ce matin, on a commencé à parler de soumission. Est-ce que je suis soumis au Seigneur ? Est-ce que je pris cet attelage et je me laisse conduire par lui jusqu'au bout ? C'est ça, l'image, n'est-ce pas, qui est là. Et alors, c'est là où il nous dit qu'il va nous conduire avec douceur et avec humilité. Parce qu'il dit, moi, mon cœur, il est humble et doux. Alors, je n'ai pas peur. Et dans tout ce qui va me paraître peut-être un peu dur de la part du Seigneur, c'est doux et léger par rapport à tout ce qu'il porte, lui, amen, ne jamais l'oublier. Alors ça y est, il est doux et humble de cœur. Je vais me laisser conduire par lui, je vais me laisser diriger par lui. Est-ce que vraiment le Seigneur, j'ai noté ici, est-ce que vraiment le Seigneur a démontré pendant les 33 ans qu'il a été sur terre, est-ce qu'il a vraiment démontré qu'il était humble et doux de cœur ? Oui. Vous permettrez que je vous donne quelques exemples, je les ai notés ici. Ne pas oublier que quand on utilise le mot humilité, j'ai redécouvert que ça vient du mot humus, terre. Et ça veut dire donc que quelqu'un qui est humble, c'est celui qui est le plus près de la terre possible. Je comprends ce passage de l'apôtre Jacques où il dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend aujourd'hui. Aujourd'hui, on apprend à être au plus haut, l'élevé, en haut de l'affiche. On apprend à être des leaders, des commandos, des hommes forts à sa nom. Ça, bien sûr, c'est pas dans les écoles bibliques, c'est pas au prix du Seigneur qu'on apprendra ça. Dans le Seigneur, avec le Seigneur, on apprend d'abord cette humilité. Et le Seigneur s'est abaissé. Est-ce que vous vous rappelez du texte tout à l'heure de Philippiens chapitre 2? Il s'est humilié, il s'est dépouillé, il s'est abaissé. Humus, l'humilité. Et ça, bien sûr, ça va prendre du temps. Je le vois pour moi-même, je ne peux pas dire que je suis humble tel que le Seigneur le veut. Et chacun de nous a un grand travail de sanctification pour que nous en arrivions à cette humilité, à cet abaissement. Alors, est-ce que le Seigneur s'est abaissé ? Oui, déjà, quand on apprend que le Seigneur a accepté de devenir chair parmi nous, Jean chapitre 1, est-ce que ce n'est pas une humilité ? Il quitte la gloire, il quitte tout ce qu'il y a de plus parfait, de saint, et il vient, et la Bible dit qu'il est devenu péché pour nous sauver. Est-ce que vous vous rendez compte un peu l'humilité de sa part dès le départ ? La Bible dit dans un passage que nous connaissons bien dans Hébreux chapitre 2 verset 14 qu'il a accepté de devenir chair comme nous, pour avoir les mêmes tentations que nous, pour avoir les mêmes épreuves, pour savoir ce que c'était que avoir faim, soif, avoir des angoisses, et j'en passe, on pourrait faire toute la liste. Il a accepté de devenir chair. Quelle humilité donc pour chacun de nous. Tout à l'heure tu nous parlais de cette soumission à ses parents. Est-ce que ce n'est pas de l'humilité ? Il aurait pu dire, mais est-ce que vous vous rappelez que je suis le Fils de Dieu ? Est-ce que vous vous rappelez que je suis... Non, pas du tout. La Bible dit, et nous connaissons ce passage de Hébreux, un peu plus loin, dans Hébreux chapitre 4, verset 15, où il est dit, « Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. » Et ça, c'est de l'humilité. Nous voulons apprendre l'obéissance. Sois humble, humilie-toi. Je continue pour qu'on comprenne et qu'en même temps, ces exemples de la part du Seigneur nous amènent à la véritable humilité. Je pense à un certain moment, Jean chapitre 6, verset 15, il est dit que la foule entière voulait le faire roi. Et il a refusé, Jean 6, 15, parce qu'il savait que ce n'était pas son moment. Je pense à une autre attitude d'humilité de sa part. La Bible dit que, puisqu'on voulait le faire roi à un certain moment, alors il fallait que s'accomplisse ce que le prophète Zacharie avait prononcé. Zacharie chapitre 9, il a dit que un jour, le roi rentrerait sur un âne à Jérusalem. Oui, un âne. Pourtant c'est le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs. Oui, mais il accepte l'âne. Vous savez que, dans l'ancien temps, aujourd'hui bien sûr tout s'est perdu, Mais quand un roi dans l'ancien temps se promenait sur un âne, ça voulait dire qu'on était en paix. Quand on voyait un roi se promener sur un cheval, alors nous étions en temps de guerre. Et un jour, oui, je l'ai noté ici dans Apocalypse au chapitre 19 et au verset 11, un jour, le Seigneur arrivera sur un cheval blanc. Apocalypse 19, 20. Il est le plus que vainqueur. Il est le véritable, il est dit. Il est le fidèle, il est la vérité. Alors là, oui, il arrive sur un cheval. Mais en premier, il arrive sur un âne. Est-ce que j'accepte moi-même de me promener sur un âne? Oh, bien sûr, on va pas aller jusqu'à être ridicule à ce point, n'est-ce pas? On a bien circulé dans nos voitures aujourd'hui, mais dans nos avions et dans nos TGV, hein, je le sais, très bien. Mais vous me comprenez? Vous me comprenez? Est-ce que j'accepte cette humilité? Et puis, si vous permettez, je vous donne quelques autres exemples où on voit cette humilité de la part du Seigneur. La Bible dit que il n'y en avait que pour quelques semaines, pour qu'il reste encore sur terre. Et alors la Pâque était là, et la Bible dit qu'il a mis le comble de son amour. Quelle humilité! Je le lis dans Jean chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens, il est dit, qui étaient dans le monde, il mit le comble de son amour pour eux. Et alors quel a été son abaissement, vous le savez. S'abaisser, la Bible prendre la forme d'un serviteur, que dis-je, d'un esclave. Il va laver les pieds les uns après les autres, 12 apôtres. Et il dit, je vous laisse des exemples. Faites de même entre vous. Cette humilité, cet abaissement, à un point que, toujours pareil. Il y en a toujours un qui réagit des apôtres et Pierre qui réagit dit, mais non, non, ah non, non, Seigneur, toi, tu me le laveras par les pieds. Ah, il faut que je te les lave aussi. Est-ce que nous en sommes à ce point d'humilité? Et alors, on comprend pourquoi la Bible dit que le Seigneur l'a élevé et qu'un jour, tout être humain s'abaissera devant lui. Humilité de sa part. Et alors, là aussi nous avons des exemples, nous qui sommes tellement habitués à parler, et malheureusement parfois à riposter. Je pense à notre Seigneur Jésus-Christ, quand on n'a pas compris son attitude, et il dit qu'il fallait que la prophétie s'accomplisse. Laquelle ? Je suis dans Matthieu chapitre 12, et alors il est dit qu'il y avait une grande foule qui était là, et qui essayait de le connaître, et il est dit que afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait prononcé, Matthieu 12, chapitre 12, verset 16, lesquels? Ben, il ne contestera pas, il ne criera point, personne n'entendra sa voix dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et que les nations espèrent en lui. Quelle humilité de sa part! Est-ce que parfois, moi le premier Samuel, je ne devrais pas plutôt me taire? Combien on a dit des fois que le messager devait être plus important que le message ou que le message plus important que le messager? Et c'est vrai qu'on est un peu des fois dans la confusion où le Seigneur nous a montré quelque chose, on sent qu'il faut l'enseigner et on se dit, mon pauvre que tu es, tu n'as même pas accompli là le premier de ces versets que tu as prononcés. Et on comprend ici notre Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas essayé de se montrer, mais toujours de se cacher. Ça serait long de voir tous les passages où il est dit que quand il a accompli un miracle pour quelqu'un, il a dit à ces personnes, surtout ne le dites à personne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les personnes? Ben, ils sont allés le divulguer à tout le monde. Et c'est là où on voit l'humilité de sa part. Ne le dites pas! Non! Parce qu'il dira qu'il n'était pas venu uniquement pour faire des miracles, des prodiges, mais pour annoncer l'évangile et pour qu'il soit pris, crucifié, mourir pour chacun de nous, pour nous racheter, nous donner la vie éternelle. Est-ce que vous vous rappelez de la prophétie d'Ésaïe, puisque nous étions dans Ésaïe, chapitre 41, 42, est-ce que vous vous rappelez de la prophétie d'Ésaïe 53, Bien sûr que vous connaissez ce passage, qui a cru à notre prédication. Et puis, il est dit, il a été méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dénigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Qui a cru à notre prédication? Qui l'a reconnu? Ce sont nos souffrances qu'il a portées, etc., etc. Quelle humilité! Quelle humilité! Alors là, oui. Alors maintenant, puisqu'il prononce un jour, je suis doux et humble de cœur. Oui! Il est doux et humble de cœur. Et je crois qu'au travers de tout ce que nous venons de voir déjà ici, nous avons des grands enseignements. Est-ce que j'ai un tel comportement? Non. Que le Seigneur nous dirige donc à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est là où nous rentrons dans ce deuxième passage qui me paraît important sur les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Des sentiments donc de simplicité, de douceur. Nous avons vu déjà tout à l'heure dans Galates chapitre 5 que la douceur c'est un fruit de l'esprit. Donc il faut que je laisse puissamment l'esprit vivre au travers de moi. Ce n'est pas possible de produire deux choses à la fois. L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 3, je vous cherche le passage, Jacques chapitre 3, et au verset 11, voilà ce qu'il déclare à un certain moment, en parlant de ce qui est bien, de ce qui est mal, et il nous dit au verset 11, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» Pas du tout. « Le figuier, mes frères, peut-il porter des figues et des olives? Une vigne peut-elle porter des figues? De l'eau salée ne peut pas produire de l'eau douce. C'est pas possible. » Et je crois que parfois, malheureusement, nous avons cette attitude. Nous avons cette double vie spirituelle où il y a de l'eau amère et le d'eau douce. Si réellement nous sommes branchés à la bonne source, il ne peut y avoir que de l'eau douce qui va jaillir de nous. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a des années, j'avais lu cette histoire de cet homme qui avait un très beau jardin, mais voilà qu'il avait une belle fontaine aussi, mais malheureusement sa fontaine donc produisait de l'eau amère. Alors il a été quand même ridicule, et je ne vais pas le montrer du doigt, il a repeint la fontaine, croyant qu'il allait avoir donc de l'eau. Il s'est dit peut-être que ça vient de là. Et il y a toujours eu de l'eau amère. Et je crois que parfois, ne jugeons pas cet homme, nous avons la même attitude. Nous disons peut-être que je devrais changer ceci ou cela, et on a oublié l'essentiel si tu veux avoir de la douceur en toi. Change de source. Amen. Quelle est la source? Je suis branché à quelle source? La Bible dit, et vous le savez très bien, que celui qui a l'eau de vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et si je suis branché avec lui, si je fais corps avec lui, alors il n'y aura que de la douceur, de l'eau douce qui va sortir de moi. Douceur en quoi? Douceur dans les paroles, douceur dans mon comportement. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, cette douceur et cette humilité qui sera là. Mais d'abord, et oui, comme on le disait tout à l'heure, il faut que j'accepte cette soumission à Dieu. Il faut que j'accepte cet abaissement. Et je vous parlais comme ça de mémoire de Jacques, chapitre 4, mais je préfère vous le lire parce que là, nous y sommes en plein. Dans Jacques, chapitre 4, il est bien dit ici, « Approchez-vous de Dieu ». Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mêmes pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, et puis sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur, et il vous les élèvera. Ne parlez pas mal les uns des autres. Mais celui qui parle de mal d'un frère ou qui juge son frère parce qu'il parle mal alors de la loi, il juge la loi. Or, si tu juges la loi, Mais tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Et c'est là où c'est le point de départ, cette accepter cette humiliation devant Dieu. J'ai noté que, sans doute comme moi, vous recevez des quantités d'invitations pour aller à des quantités de conférences, et je crois qu'il y a des conférences qui seraient très intéressantes, mais c'est le temps qui nous manque, et peut même aussi l'argent, il faut se déplacer ailleurs. Mais c'est bizarre, je n'ai jamais vu des conférences sur des cours d'humilité. On n'en trouve pas. Sinon, dites-moi-le, hein. Je crois que c'est important. On trouve toujours des conférences parfois où, est-ce que vous voulez être rempli de la puissance? Est-ce que vous voulez être puissant? Est-ce que vous voulez avoir tel ou tel don? Alors ça, excusez-moi, je ne juge pas ces églises, que c'est le Seigneur qui jugera. Mais réellement, il y en a partout. Mais par contre, des conférences où ça nous amène à de l'humilité, hein Bernard, à de la douceur, à ces sentiments qu'était en Jésus-Christ, alors là non. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben ce qu'on fait ce matin, se tourner uniquement vers la parole de Dieu. Amen. Et nous aurons tous les principes pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et donc, le point de départ, on vient de le voir, c'est est-ce que j'accepte de m'abaisser? Est-ce que j'accepte cet abaissement de la part de Dieu? Et n'oubliez pas que Dieu va nous abaisser sans nous écraser. Je crois que parfois nous avons peur de cela. De disparaître. Non, pas du tout. Il va nous abaisser jusqu'à un certain niveau. Il va placer à nous, comme on l'a vu au début, ce joug. Et il va nous diriger. Et il est dit, recevez mes instructions, recevez mes enseignements. Et alors je vais me laisser maintenant diriger, conduire par lui. Alors oui, bien sûr, c'est là où je vais expérimenter de nouveau ce que c'est que la mort à soi-même. Et ça y est, maintenant, je vis pour le Seigneur. Ça y est, c'est le Seigneur qui va m'élever petit à petit, quand il voudra. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a le contrôle de tout. Et alors, voilà que dans cette humilité, je vais avoir ces sentiments que nous avons décrits tout à l'heure de la part du Seigneur. Ou quand je vais être à l'extérieur, comme à l'intérieur, comme peut-être isolé, le Seigneur sera là. Le pasteur qui m'a formé nous disait, ne soyez pas un chrétien du matin, un chrétien de l'après-midi, un chrétien du soir. Ça voulait dire, n'ayez pas trois vies différentes. Ayez la même vie, c'est tout. Et il nous a encouragé à cela. Et parfois, peut-être que si on s'examine soi-même, on a deux, trois, quatre vies différentes, suivant les endroits, les lieux où on est. Non! Que le Seigneur puisse vivre continuellement, continuellement en moi. Cela veut dire donc que si j'ai ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, alors voilà que aussi ma parole va être différente. Je vais parler différemment. Je vais m'exprimer différemment. Je reviens sur cette épître aux Éphésiens où l'apôtre Paul peut-être avait ressenti qu'il y avait, quelques difficultés dans cette église sur le parler de certains. Et alors il est obligé de leur dire ici dans Éphésiens chapitre 4 qu'ils ne sortent de votre bouche, Éphésiens 4, 29, hein, qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous et par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, mais vous pardonnant les uns et les autres réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Devenez donc les imitateurs de Dieu, des enfants bien-aimés, et marchez dans la vérité, marchez dans l'amour. Alors, voilà que je suis débarrassé de tous les sentiments humains, et je ne serai rempli que des sentiments divins, et à ce moment-là, tout cela va disparaître. Et voilà ma manière de parler maintenant, qui change. Vous savez qu'il est bon de relire de temps en temps très doucement les proverbes. je ne le fais pas assez régulièrement. Mais ces 31 chapitres de Proverbes, il y a des quantités de choses qui nous amèneraient vraiment à une vie complètement différente avec le Seigneur. Et alors, en relisant ces derniers jours des versets qui parlaient de comment m'exprimer, non pas avec mes sentiments, avec ce que je ressens du moment, mais uniquement avec la puissance de Dieu, je relisais ce Proverbe 25:15, où il est dit que même une parole douce peut briser des os. Est-ce que vous vous rendez compte? Je crois que, on croit, bien sûr, humainement parlant, on croit que c'est, n'est-ce pas, à nous exprimer le plus fort possible que je vais arrêter quelqu'un. Non, pas du tout. Il faut relire ce verset de Proverbe 25:15, que avec des paroles douces, tu peux briser des os. Est-ce que vous avez déjà vu cette situation dans votre vie chrétienne, d'être en présence d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, imprégnée de la présence de Dieu, et de la manière dont elle vous parle, ou elle vous reprend dans la vérité, mais elle vous reprend cette personne dans l'amour, et vous êtes brisé. Et pourtant, elle n'a pas du tout crié. Elle n'a pas contesté, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Mais c'est un brisement qui se fait. Pourquoi? Parce que cette personne est entièrement imprégnée de la présence de Dieu. Et cette personne est remplie donc des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà ce que peut produire la puissance de Dieu. Des sentiments qui sont dans la droiture, qui sont donc dans la volonté de Dieu. Je continue. On a parlé beaucoup de cette humilité du Seigneur, de la douceur du Seigneur. Oh, vous pourriez m'arrêter et dire, Samuel, je connais quand même les 4 évangiles et je vois que Jésus-Christ a eu de l'autorité. Oui, il a eu de l'autorité, bien sûr. Et je crois que nous aussi, Dieu nous donne une certaine autorité. Mais voilà, je ne sais pas l'utiliser parfois, cette autorité. Et chacun de nous, nous avons cette difficulté. Où nous tombons dans peut-être une colère, dans une expression qu'il ne faudrait pas avoir, et on n'a pas cette autorité qui vient du Seigneur. Je pense, si vous permettez, à quelques illustrations qui nous montrent cette autorité de la part du Seigneur, et pourtant il était doux et humble de cœur. C'est pour cela que la conférence, vous l'avez vu, le titre, une définition biblique des sentiments qui existaient en Jésus-Christ. Et alors, il avait des sentiments aussi, parfois, de colère, où il n'acceptait pas. J'ai juste ici deux ou trois illustrations où la Bible dit, dans Marc 1, 22, et bien des passages où chacun, il est dit que tous ceux qui l'écoutaient, tous ceux qui le voyaient, ils étaient étonné, n'est-ce pas, impressionné par l'autorité qu'il avait dans l'enseignement qu'il apportait. Matthieu chapitre 7, 23. Impressionné par cette autorité qu'il avait. Il est impressionné aussi dans cette autorité du commandement qu'il avait. Marc 1, 27. Jusqu'à un point où on arrive à Marc 11, 28, où il est dit, mais elle te vient d'où de cette autorité que tu as? D'où vient cette autorité? Et c'est là où, en examinant la parole de Dieu, on se rend compte que cette autorité, ah évidemment, vous me dites, c'était le Fils de Dieu. Oui, c'était la parole incarnée. Oui, exact. Oui, mais au fait, est-ce que Christ ne veut pas vivre pleinement en nous, dans toutes les circonstances? Et alors, il faut, c'est sûr, avoir ces sentiments de douceur, d'humilité en nous, de simplicité, comme on a vu, le plus terre-à-terre, l'abaissement total, et en même temps avoir de l'autorité en moi. Alors j'ai l'impression que l'apôtre Paul lui-même, peut-être que à certains moments il est tombé un peu peut-être dans le piège, où il y a eu un peu trop d'autorité. Et alors c'est pour cela qu'il dit que l'autorité, et on va le lire, l'autorité qu'il avait reçue c'était pour toujours l'édification, et jamais la destruction. Et c'est là où c'est très très difficile, en tout cas pour moi, au bout de quand même plusieurs années et dizaines d'années de ministère, on se rend compte, n'est-ce pas, des gaffes qu'on a fait, des faiblesses, et on demande pardon au Seigneur. Je pense donc à ces deux passages, un qui est dans 2 Corinthiens chapitre 10 et dans 2 Corinthiens chapitre 13. Voilà un grand avertissement de la part de Dieu au travers de l'apôtre Paul. Il dit au verset 8, il vient de nous expliquer que il a eu des révélations. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas pour lui. Et il dit, et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Et je ne saurais en avoir honte. Et il termine pratiquement la lettre, regardez dans 2 Corinthiens chapitre 13, à peu près dans la même recommandation. Vous y êtes dans 2 Corinthiens 13, il dit au verset 10, « C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas usé de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non la destruction. » Et ce qui se passe souvent, c'est que, quand le Seigneur nous montre peut-être pleinement quelque chose, où nous devons dire la vérité, où nous devons donc affronter pour redresser quelque chose, si on ne le fait pas en même temps avec douceur, humilité et autorité, patatrac, il va y avoir la cata, il va y avoir une catastrophe. Et je comprends l'apôtre Paul qui dit, oui, le Seigneur m'a donné de l'autorité, mais c'est pour de l'édification, et non pas la destruction. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je sais que certains le savent. À Toulouse, en tout cas, dans l'église où je suis, nous avons passé, en tout cas, l'année 2011 et 2012 dans des difficultés très fortes. Et il y a eu, malheureusement, de la destruction. Et là, on dit, merci Seigneur, on vient d'avoir une assemblée générale dimanche dernier. Merci Seigneur, parce que depuis un an, tout est reconstruction. Amen. Tout est reconstruction. Ouvrier avec le Seigneur. Vous êtes ouvrier et le Seigneur nous conduit à reconstruire. Reconstruire. Amen. Mais je pense à ce verset. Est-ce que l'autorité que le Seigneur nous donne est pour la destruction ou l'édification? Oui. C'est vrai qu'il en faut de l'autorité. La difficulté, la voilà. Je vois des instruments électroniques. Et alors souvent, je pense à ce verset qui est très difficile à comprendre pour moi, parce que la Bible dit que l'esprit que Dieu nous a donné, entre autres, hein, l'esprit que Dieu nous a donné, entre autres, c'est pas un esprit de timidité. Non, non, non. Mais il est dit dans 2 Timothée, chapitre 1, et au verset 8, que ce n'est pas un esprit de timidité, hein. J'étais au verset 7. Il est dit, ce n'est pas un esprit de timidité, hein, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce que vous n'avez pas la difficulté de conjuguer les trois choses ensemble? Ah, moi j'ai des difficultés, hein. On est plusieurs? Oui. Oui, bien sûr. Mais c'est ça. Disons que parfois, on est plein de force. Ben oui, mais où est la douceur? Où est l'humilité? C'est pour ça que je regardais tes instruments électroniques, là, Jérémy. Je pense du temps, tu sais, où on avait ces grands baffles. Et alors, il fallait l'aigu, il fallait le grave et le volume. Alors, moi, le dernier, je laissais ça de côté pour un technicien, parce que pour faire l'équilibre des trois, alors là, c'est... Et là, c'est pareil. Et ça, vous le comprenez que ça ne vient pas du jour au lendemain. Je vais laisser le Seigneur me donner en moi, dans cet esprit de sagesse, de force, et puis d'amour. Et c'est là où on retrouve la douceur, l'humilité, l'autorité, n'est-ce pas? Est-ce que je le veux? Et là, nous pouvons terminer avec ce passage de tout à l'heure, et je vous demande de le reprendre, de Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, où voilà ce qui nous est dit ici. Nous n'allons pas reprendre bien sûr tout le texte, mais il est bien dit ici que pour marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, en toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Pour nous supporter les uns les autres avec amour, voilà peut-être un éclairage qui peut être là. Quand Paul s'adresse cette fois-ci à l'église de Rome, ah, pas la Rome d'aujourd'hui, vous m'avez compris, non, 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 la Rome du premier siècle, et il leur dit ici dans Romains chapitre 15 verset 1, écoutez bien, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, et nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Écoutez la suite. Et c'est là où on voit un des sentiments et une des attitudes de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez une des attitudes qu'il avait. Il est dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien et pour l'édification. Car Christ ne s'est pas complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui m'insultent sont tombés sur lui. Or, tout ce qui est écrit, etc. Et c'est là où nous avons, il me semble, une piste nouvelle qui est là. Comment avoir cette douceur, cette humilité? Est-ce que je veux être purifié de tout ce qui me plaît? On n'est pas en train de se complaire soi-même. La Bible dit, Galates, chapitre 1, si je plais aux hommes, c'est pas la peine, je ne suis pas serviteur de Dieu. Est-ce que j'essaye de plaire aux autres ou est-ce que j'essaye d'abord de plaire au Seigneur? Et si je plais au Seigneur, alors automatiquement je vais plaire aux autres. Mais troisième point, ne pas se regarder soi-même et se complaire en soi-même. De dire, j'ai pas grand-chose à me modifier, hein, je m'excuse, mais je crois que ça va. Je me suis regardé en plus deux ou trois fois aujourd'hui et ça va. Donc, ah, ça, c'est ça se complaire en soi-même. Non, non. Ou je plais aux hommes, ou je plais à Dieu, ou je me plais à moi-même. Et alors la Bible dit ici que si nous commençons à nous plaire donc à Dieu, comme Jésus-Christ l'a fait, n'est-ce pas? Alors c'est à ce moment-là où je vais aussi avoir cette patience pour supporter les autres. Un autre détail qui est important, c'est puisqu'on a tellement parlé, de douceur, d'humilité, alors il y a un habit qu'on ne doit pas oublier de prendre. Lequel? Regardez-le. Colossiens chapitre 3, regardez-le. Je ne sais pas comment on s'habille spirituellement chaque jour, mais voilà un habit qu'on oublie souvent. Hein. On le laisse au vestiaire et il faudrait le prendre tous les jours, parce que ça changerait, vous verrez, notre comportement, et donc ça nous changerait dans nos sentiments et dans notre douceur et humilité. Vous y êtes dans Colossiens chapitre 3? Oui. Il est dit ici, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, revêtez-vous de bonté, revêtez-vous de quoi? D'humilité et de quoi? De douceur, de patience. » Ah, mais au fait, je retrouve les trois ici, hein, qui étaient dans Éphésiens chapitre 4. Humilité, douceur, patience. Et à ce moment-là, alors supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, c'est comme s'il disait, si, ça arrive, on ne sait jamais, il y a une plainte, alors pardonnez-vous. Pardonnez-vous, réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Et c'est là où nous avons une clé qui est tellement simple, simple. Si je n'arrive pas à supporter quelqu'un, ça peut arriver, bien sûr, c'est parce que tu ne t'es pas revêtu, il est dit ici, ça c'est le point de départ. Il faut que tu te revêtes de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et après, tu supportez-vous les uns les autres. Vous comprenez? Et alors, voilà une grande leçon pour moi. J'ai noté ici que parfois on s'y perd dans les habits que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de nous revêtir des habits d'un ouvrier. Le Seigneur nous demande de nous revêtir deuxièmement comme un soldat d'une armure et troisièmement de nous revêtir d'humilité, de patience, de douceur et de bonté. Ben oui, parce que ça dépend du travail que nous faisons avec le Seigneur. Vous êtes ouvrier avec lui ? Oui, je suis semeur. Alors là, on revêt donc l'habit d'un semeur et en avant. Revêtez-vous de quoi ? Des armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours le combat qui est là. Et je dois donc ne pas quitter surtout l'armure. Pour tous ceux qui ont fait l'armée, oh là là, attention, il faut que vous soyez toujours avec l'armure qu'on vous donne. Hein. Oh là là, sinon, alors grande sanction, et vous allez faire sans doute une semaine de plus d'armée. Hein. Ah non, non. Et là, c'est pareil. Et là, c'est un des habits que nous oublions, de mettre en nous, sur nous, de nous revêtir de cet habit de bonté, de patience, d'humilité et de douceur. Et alors là, je pourrai à ce moment-là supporter les autres. Je m'arrête là. Est-ce que nous sommes prêts à avoir ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ ? Vous avez vu ce passage qu'il faudrait examiner en deux ou trois fois sur l'humilité, cet abaissement. Ça m'a marqué, vous savez, quand on revient à l'origine, j'aime beaucoup revenir à l'étymologie des mots, et quand tout d'un coup j'ai redécouvert que humilité veut dire humus, la terre, le plus bas. Alors, on se dit, combien tu en es loin, Samuel, de cet abaissement, pour que le Seigneur soit pleinement en toi. Est-ce que nous le voulons ? Est-ce que nous voulons être revêtus de cette bonté, douceur, patience ? Alors oui, ça y est, je vais commencer à avoir des sentiments qui viennent de la part du Seigneur. Amen. Je voudrais prier.